8h, le journal, présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ce vent, vous l'entendez, ce vent à plus de 200 km/h. Incroyable, les Corses l'ont encore en tête évidemment ce matin, au lendemain des intempéries qui ont fait 5 morts et une vingtaine de blessés. L'île de Beauté se réveille défigurée, des arbres arrachés, des routes coupées, toitures envolées. 300 pompiers ont été mobilisés hier pour venir en aide aux habitants et aux vacanciers. Les campings dévastés ont été évacués. Bonjour William Molinier.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio. Vous avez passé la nuit sur place auprès des sinistrés, nuit très pluvieuse encore. Hein.
Oui, sur les coups de 2h du matin, beaucoup de pluie, comme si des seaux d'eau se déversaient sur Ajaccio. Mais heureusement, pas de vent, pas de rafale à 200 km/h. Rien à voir donc avec la nuit d'avant-hier. Mais la prudence a tout de même conduit les autorités à évacuer certains campings les plus exposés. Près de 12 500 personnes ont ainsi été mises en sécurité sur l'ensemble de la Corse. Aujourd'hui, les opérations de recherche vont se poursuivre en mer, mais aussi dans la montagne, sur le GR20, où quelques randonneurs n'ont pas donné signe de vie depuis hier matin.
Vous avez passé, William, la nuit au milieu des sinistrés, je le disais. Évidemment, les événements d'hier sont dans toutes les têtes autour de vous.
Oui, tous racontent les mêmes scènes. Le mur de nuages noirs venu de la mer et puis la machine à laver. Certains étaient même sur leur bateau. C'est le cas de Julien. Son voilier complètement détruit.
On était tous au port, amarrés. Les amarres ont lâché. Les bateaux se sont entrechoqués pendant une heure. Enfin, c'était un vrai carnage.
L'alerte devrait être levée en fin de matinée. L'heure de constater les dégâts. Les autorités redoutent désormais que le bilan humain et matériel ne s'alourdisse au cours de la journée.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio. Marlène Durey, je me tourne vers vous, notre spécialiste météo sur Europe 1. Ce phénomène très violent, très soudain, c'était prévisible?
Alors, on le rappelle souvent, mais c'est vrai que les orages, c'est quand même l'un des phénomènes les moins prévisibles en météorologie. Des modèles très sophistiqués comme AROM, par exemple, développé par Météo France, arrivent à les prévoir de mieux en mieux. Mais pas toujours. Les prévisionnistes se retrouvent souvent dans des situations où les modèles ne permettent pas de trancher. Et c'est vrai que le type d'orage que la Corse a subi est peu fréquent, mais tous les ingrédients étaient là pour que cet épisode exceptionnel se produise. Et il faudra y être confronté à l'avenir, parce que selon les prévisionnistes que j'ai interrogés, il faut s'attendre à des étés de plus en plus chauds, et donc à des orages de plus en plus violents. La chaleur apporte de l'énergie, et on sait que les orages se nourrissent de cette énergie. Il faisait encore 36 degrés il y a 2 jours en Corse. La mer est chaude en surface. On l'a dit encore tout à l'heure, l'air froid en altitude qui circule dans les masses d'air chaud, humide et instable favorise ces phénomènes.
Merci beaucoup Marlène Durey.
Alors beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur aussi, cette sécheresse qui nourrit les feux de forêt, notamment en Algérie.
Ouais, 38 personnes ont perdu la vie à cause de ces incendies, essentiellement à El Tarf, dans l'est du pays, près de la frontière avec la Tunisie. Selon la protection civile et les médias locaux, on compte plus de 200 blessés, dont 10 pompiers. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Après des semaines de feu, la situation, heureusement, semble s'améliorer.
Eh bien, sur les 118 foyers d'incendie, plus de 90% ont déjà été maîtrisés. Cela grâce aux efforts conjoints des pompiers et des éléments de l'armée nationale qui ont engagé d'importants moyens. Ils sont intervenus sur terre, mais également par les airs pour éteindre les feux de forêt. Quelques parcelles dans les massifs montagneux de l'est de l'Algérie restent sous étroite surveillance. Mais les dégâts matériels sont limités. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui était en déplacement dans les régions touchées par cette catastrophe.
Dès ce samedi, l'estimation des dégâts va commencer. Des équipes vont être déployées sur le terrain afin d'évaluer les pertes matérielles et débuter l'indemnisation des personnes sinistrées. Mais d'après un premier constat, ces dégâts sont limités.
Du côté de l'enquête judiciaire, on parle déjà de plusieurs arrestations des personnes prises en flagrant délit ou soupçonnées d'être à l'origine de départs de feu. Le procureur de la République promet des sanctions fermes.
Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 en Algérie. En France, cette semaine, une femme de 55 ans a été interpellée pour avoir provoqué 8 départs de feu début août dans le centre-ville de Couzeix, en Haute-Vienne, près de Limoges. Interpellée mardi grâce à la vidéosurveillance, elle a confessé avoir allumé ces incendies par ennui. Elle sera jugée le 16 décembre prochain après une expertise psychiatrique.
8h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. L'allocation de rentrée scolaire fait de nouveau polémique en cette rentrée.
Mais oui, faut-il la transformer en bon d'achat? C'est ce que propose Pierre-Henri Dumont, c'est le député Les Républicains du Pas-de-Calais, pour mieux contrôler l'utilisation de cette allocation. Proposition qui indigne la gauche. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, l'estime stigmatisante.
Si on parle de rentrée, c'est parce que les vacances évidemment touchent à leur fin.
Mais oui, vacances que vous avez peut-être passées entre amis ou en famille, loin de chez vous. vous sans doute, mais l'été, c'est aussi pour beaucoup un long moment de solitude, notamment pour les plus âgés, ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Alors le Secours Populaire se mobilise pour leur offrir quelques heures de fête à Paris, au programme Croisière sur la Seine à bord de la péniche Le Canotier et repas dansant. Nina Droff était de la partie pour Europe 1 Reportage.
Chapeau de paille sur la tête, les seniors montent un à un à bord du canotier dans une ambiance de colonie de vacances. Et même la pluie n'entame pas l'enthousiasme de Bernadette et Sylvie serrées à deux sous un parapluie rouge.
La pluie qui va nous faire peur, hein. Ah non, hein.
Ça fait pousser les belles plantes.
L'aventure commence par une déambulation fluviale le long des plus beaux monuments parisiens. Un spectacle que certains n'ont encore jamais vu.
On voit tout en plus là. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel.
Moi je viens jamais à Paris en plus.
5 euros pour une croisière comme ça, c'est formidable. Hein.
Sur les bancs usés du bateau, les groupes se forment et se déforment. Pour beaucoup, cette balade est aussi l'occasion de faire des rencontres. Denis, 74 ans, vient de se faire une nouvelle amie.
Cette dame, je ne l'avais jamais vue. J'adore ces rencontres impromptues. En plus, je suis très seule, je suis contente, vraiment.
Et après plusieurs heures de traversée, dernier stop chez Gégène, mythique guinguette dansante sur les rives de la Marne. C'est le son des accordéons qui accueille le groupe.
Du bonheur, que du bonheur. Là, maintenant, on va à un programme très chargé.
Le programme en question, manger, boire et surtout danser. Michel n'hésite pas à poser sa canne pour aller rejoindre la piste de danse.
On va danser un peu, on va essayer. Hein.
Si l'on sait qu'un bon cavalier m'enlève la fibromyalgie, je me voue à lui.
On se retrouve sur la piste tout à l'heure.
Une première danse qui sera loin d'être la dernière pour ce duo endiablé.
Reportage signé Nina Droff.
Alors un bal musette, oui, mais avec un chapeau de paille, hein, on l'a entendu.
Mais oui, un joli chapeau et des plus originaux, s'il vous plaît. Ça tombe bien, les plus beaux couvre-chefs du monde sont en ce moment exposés à Granville, en Normandie. Le musée Christian Dior y expose ses trésors, 70 ans d'accessoires sans qui les tenues de la maison de couture n'auraient pas eu la même allure, c'est certain, Marie Jiquel.
On ne sait plus où donner de la tête avec tous ces chapeaux fantasques. En bois sculpté, en raffia, ce couvre-chef de 1 mètre de haut avec de longs poils roses ou ce chapeau couronne très bling-bling. Alice, une visiteuse, a jeté son dévolu sur une coiffe très carnavalesque.
En plume d'autruche, réalisée par John Galliano. Superbe, extravagante, très lido. Ça doit être très difficile à porter, je ne sais pas si on peut conduire avec. Il faudrait une voiture décapotable.
Mais la surprise ne se limite pas aux matières. Des chapeaux, palettes de peintre, bouquets de muguet ou feux follets accompagnent des coiffes plus chics ou traditionnelles comme le béret ou la capeline. On comprend à travers le parcours que le chapeau fut un marqueur social à l'époque du jeune Christian Dior, Brigitte Richard, conservatrice au musée.
Le chapeau, en effet, au début du XXe siècle est très important. On ne sort pas en cheveux, une femme ne sort pas sans son chapeau. Bien sûr, on ne porte pas le même chapeau selon la condition sociale qui est la sienne.
L'exposition a été pensée par l'actuel monsieur chapeau de Dior, Stephen Jones, pour qui le béret, le bibi ou le canotier demeure le point d'exclamation d'une tenue.
Marie Jiquel, exposition à visiter jusqu'au 30 octobre à Granville dans la Manche. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai Tata Yo-Yo en tête pour toute la journée.
Oui. Je crois que vous n'êtes pas la seule, effectivement. Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, vous revenez à 9h.